Tchekhov est né entre la libération des serfs et la première grande révolution russe.
Elsa Triolet.
Et son œuvre prend en somme ce même chemin vers la lumière. L'oncle Vania est encore la pièce qui a des types qui savent qu'ils vivent mal, mais qui ne voient pas comment ils pourraient vivre mieux.
Ça peut pas faire de mal.
Dans la Cerisée, qui est la dernière des grandes pièces de Tchekhov, on entend déjà le désir de Tchekhov de montrer qu'un certain passé est véritablement le passé et que toute la Russie sera une Cerisée, c'est ce qu'il dit.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Olga contemplait longuement la rivière en crue, le soleil, l'église lumineuse et comme rajeunie. Des larmes roulaient de ses yeux et sa respiration s'arrêtait, tant était violent son désir de s'en aller n'importe où, droit devant elle, quand ce serait au bout du monde. Il était déjà décidé qu'elle retournerait à Moscou comme femme de chambre et que Kirill partirait avec elle pour se placer comme portier ou autre chose. Ah, partir au plus vite. Quand la terre eut un peu séché et qu'il fit tiède, ils se préparèrent au départ. Olga et Sacha, la besace sur le dos, des chaussures de tille aux pieds, partirent dès l'aube. Maria leur fit un bout de conduite. Kirill était malade. Il restait encore une semaine. Olga, tournée vers l'église, dit une dernière prière à l'intention de son mari. Elle ne pleurait pas. Seul son visage s'était ridé et était devenu vilain comme celui d'une vieille. Au cours de l'hiver, elle avait maigri, enlaidie, légèrement grisonnée. Son air aimable et son sourire avaient fait place à une expression résignée, attristée par le malheur. Il y avait quelque chose de stupide et d'immobile dans son regard, à croire qu'elle n'entendait pas. Il lui en coûtait de quitter le village et ses habitants. Elle se rappelait l'enterrement de Nikolai, les prières que l'on avait commandées dans chaque chaumière, et tout le monde avait pleuré et partagé sa peine. Il y avait eu durant l'été et l'hiver des heures et des jours où elle avait l'impression que ces gens vivaient plus mal que des bêtes, qu'il était épouvantable de partager leur vie. Ils étaient grossiers, malhonnêtes, sales, intempérants, ne s'entendaient pas, se querellaient sans répit parce qu'ils n'avaient pas de respect les uns pour les autres, se craignaient et se suspectaient mutuellement. Qui tient le cabaret et pousse les gens à boire? Le moujik. Qui dilapide l'argent de la commune, de l'école, de l'église? Le moujik. Qui vole son voisin, met le feu à son isba, fait de faux témoignages pour une bouteille de vodka? Le moujik. Qui, dans les assemblées provinciales et autres, part le premier en guerre contre les moujiks? Le moujik. Oui, il était épouvantable de partager leur vie. C'était néanmoins des êtres humains. Ils souffraient et pleuraient comme des êtres humains. Il n'y avait rien dans leur vie qui ne pût se justifier. Dur labeur qui laisse la nuit le corps endolori, rudes hivers, maigres récoltes, promiscuité, aucune aide, aucun espoir d'en recevoir. Les plus riches et les plus puissants ne peuvent aider les autres, parce qu'ils sont eux-mêmes grossiers, malhonnêtes, intempérants et se disputent tout aussi odieusement. Le moindre fonctionnaire ou régisseur traite les moujiks comme des vagabonds, tue toi-même les doyens de canton et les présidents des conseils de fabrique et pense qu'il en a le droit. Mais peut-on attendre une aide ou un bon exemple de ces hommes, cupides, âpres aux gains, débauchés, paresseux, qui ne viennent dans les villages que pour les molester, spolier? Et peut-on attendre une aide ou un bon exemple de ces hommes cupides, âpres aux gains, débauchés, paresseux, qui ne viennent dans les villages que pour molester, spolier, terroriser? Olga se rappelait l'air piteux et humilié des vieux quand on avait emmené Kirill pour lui donner les verges cet hiver. Et maintenant, elle plaignait tous ces gens à en avoir mal. C'était un extrait de « Les moujiks » où Tchekhov décrit l'inhumanité des conditions de vie des paysans abrutis de travail, affamés et enclins à la violence. Bonjour, bienvenue à « Ça peut pas faire de mal », encore consacré à Tchekhov. Anton Tchekhov. Aujourd'hui, Tchekhov, l'homme de théâtre, l'homme engagé, le médecin. Pour lire avec moi, j'ai demandé à un très grand acteur, Niels Harestrup. Bonjour Niels.
Bonjour Guillaume.
Merci de venir lire du Tchekhov avec moi. Pour commencer, un extrait de la salle numéro 6, écrit en 1892. Ce texte qui témoigne de l'intérêt de Tchekhov pour la psychiatrie. Il y dénonce le traitement inhumain des aliénés dans les hôpitaux.
Un soir de printemps, à la fin de mars, alors qu'il n'y avait déjà plus de neige sur la terre et que les sansonnets chantaient dans le jardin de l'hôpital, le docteur accompagna jusqu'à la porte cochère son ami le directeur des postes. La porte de la salle était ouverte. Gromov, allongé sur son lit et soulevé sur le coude, reconnut le docteur. Il se mit à trembler de colère, sauta à bas du lit et la figure rouge, l'air mauvais, les yeux hors des orbites, se précipita au milieu de la salle.
« Voilà le docteur !» hurla-t-il en éclatant de rire. « Enfin, messieurs, félicitations, le docteur nous fait l'honneur de sa visite, maudite canaille » hurla-t-il. Et en proie à un accès comme il ne s'en était encore jamais vu en ces lieux, il frappa du pied. « Il faut tuer cette canaille ! Non, ce n'est pas assez de le tuer, il faut le noyer dans les cabinets !»
Le docteur Ragin, en entendant cela, jeta un coup d'œil dans la salle et demanda, sans hausser le ton, « Pourquoi ?»«
Pourquoi ?» hurla Gromov en s'approchant de lui, l'air menaçant et en se drapant d'un geste convulsif dans sa robe de chambre. « Pourquoi, voleur ? » lâcha-t-il avec dégoût, en avançant les lèvres comme s'il voulait cracher. « Charlatan, bourreau !»«
Calmez-vous, » dit le docteur avec un sourire coupable. « Je vous assure que je n'ai jamais rien volé. Quant au reste, il est probable que vous exagérez beaucoup. Je crois que vous êtes en colère contre moi. » Calmez-vous, je vous en prie, si vous le pouvez, et dites-moi de sang-froid pourquoi vous m'en voulez.
Pourquoi me gardez-vous ici ?
Parce que vous êtes malade.
Oui, je suis malade. Mais des dizaines, des centaines de fous se promènent en liberté parce que votre ignorance est incapable de les distinguer des gens sains. Pourquoi ces malheureux que voilà et moi devons-nous être enfermés ici pour tous les autres comme des boucs émissaires ? Vous, votre aide, l'économe et toute votre racaille, vous êtes du point de vue moral incommensurablement plus vil qu'aucun de nous. Pourquoi sommes-nous enfermés et pas vous ? Où est la logique ?
Le point de vue moral et la logique n'ont rien à voir ici. Tout dépend du hasard. Celui qu'on a enfermé reste enfermé. Et celui qu'on n'a pas enfermé se promène. Voilà tout. Dans le fait que je suis un médecin et vous un aliéné, il n'y a ni morale ni logique, mais un simple hasard.
Je ne comprends rien à vos balivernes, répondit Gromov d'une voix sourde et il s'assit sur son lit. Laissez-moi m'en aller, dit Gromov. Et sa voix frémit.
Je ne peux pas.
Mais pourquoi donc ? Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas à mon pouvoir. Réfléchissez à quoi vous servirait que je vous laisse partir. Allez-vous-en. Les habitants ou la police vous arrêteront et vous ramèneront.
Oui, oui, c'est vrai, dit Gromov. Il s'essuya le front. C'est horrible, mais que puis-je faire ?
La voix de Gromov et ce jeune visage intelligent qui grimaçait plurent au docteur. Il eut envie de témoigner de la gentillesse au jeune homme, de le calmer. Il s'assit à côté de lui sur son lit, réfléchit et dit « Vous demandez ce que vous pouvez faire. Le mieux dans votre situation est de vous enfuir. Mais malheureusement, c'est inutile. On vous arrêtera. Quand la société retranche de son sein les criminels, les malades mentaux et, d'une façon générale, les gens qui la gênent, elle est invincible. Il ne vous reste qu'une chose. Vous consoler à la pensée que votre séjour ici est inévitable.
Il n'est nécessaire à personne.
Du moment qu'il existe des prisons et des asiles d'aliénés, il faut qu'il y ait quelqu'un dedans. Si ce n'est pas vous, c'est moi. Si ce n'est pas moi, c'en est un troisième. Patientez. Quand... dans un lointain avenir, prison et asile auront achevé leur existence Il n'y aura plus ni grille aux fenêtres, ni robe de chambre d'asile. Il va de soi que tôt ou tard, ce temps viendra.
Gromov eut un sourire railleur. Vous plaisantez, dit-il en clignant les paupières. Des messieurs comme vous et votre auxiliaire Nikita n'ont rien à voir avec l'avenir. Mais vous pouvez en être sûr, cher monsieur, il viendra des temps meilleurs. Il se peut que ma façon de m'exprimer soit vulgaire, moquez-vous. Mais elle luira l'aube d'une vie nouvelle. La vérité triomphera et nous aussi nous serons à la fête. Je ne verrai pas ce jour, je crèverai avant, mais les petits-enfants des uns ou des autres le verront. Je les salue du fond du cœur et je me réjouis pour eux. En avant, Dieu vous aide, mes amis.
Gromov se leva, les yeux flamboyants et tendant les bras vers la fenêtre, poursuivi d'une voix émue.
De derrière ces grilles, je vous bénis. Vive la vérité, je me réjouis.
Je ne vois pas de raison particulière de se réjouir, dit le docteur Ragin, à qui le geste de Gromov avait paru théâtral, mais avait en même temps beaucoup plu. Prison et asile n'existeront plus, et la vérité triomphera, comme vous avez bien voulu le dire, mais la réalité ne changera pas. Les lois de la nature demeureront identiques, les gens tomberont malades, vieilliront et mourront comme aujourd'hui, en dépit de la splendeur de l'aube qui aura illuminé votre existence. Au bout du compte, on vous clouera dans un cercueil et on vous jettera dans le trou.
Et l'immortalité ?
Oh, je vous en prie.
Vous n'y croyez pas, mais moi j'y crois. Il y a chez Dostoïevski ou chez Voltaire un personnage qui dit que si Dieu n'existait pas, les hommes l'auraient inventé. Et je crois profondément que si l'immortalité n'existe pas, tôt ou tard, le grand esprit humain l'inventera.
Vous êtes un homme qui réfléchit et qui pense. Quelle que soit votre situation, vous pouvez trouver en vous-même matière à vous apaiser. Une pensée libre et profonde qui s'efforce de comprendre l'existence. Et un mépris absolu de la stupide vanité du monde. Voilà les deux biens les plus hauts que l'homme ait jamais connus. Et vous pouvez les posséder, même vivant derrière une triple rangée de grilles. Diogène vivait dans un tonneau. Il était pourtant plus heureux que tous les rois de la terre.
Votre Diogène était un ego, dit Gromov d'un ton maussade. Diogène, la compréhension, qu'est-ce que vous me racontez ? S'écria-t-il avec une fureur soudaine en sautant sur ses pieds. J'aime la vie, je l'aime passionnément. J'ai la manie de la persécution, une incessante terreur me torture, mais il y a des instants où la soif de vivre s'empare de moi, et alors j'ai peur de perdre la raison. J'ai terriblement envie de vivre. Terriblement.
Quel agréable jeune homme, songeait le docteur en regagnant son appartement. Depuis que je suis ici, c'est, je crois bien, la première personne que je rencontre avec qui on puisse parler. Il sait raisonner, s'intéresse précisément à ce qu'il faut. Il se mit à sa lecture, puis alla se coucher. La pensée de Gromov ne le quittait pas, et le lendemain, dès son réveil, il se souvint qu'il avait fait hier la connaissance d'un homme éclairé, intéressant, et décida de retourner le voir à la première occasion.
Ça peut pas faire de mal.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Quand l'automne vient à venir et qu'il n'est plus de saison, toi tu t'apprêtes à mourir. D'aucuns disent que t'as raison. Être triste à mourir, c'est ta règle en cette saison. Avoir le droit de partir, d'aucuns disent que t'as raison. Quand manque la douceur de vivre, l'être aimé ou la passion, l'envie de mourir, de vivre, d'aucuns disent que t'as raison. Cet automne qui t'angoisse dans le mur de ta maison, faire net, faire douce place, d'aucun disque t'as raison. Dans ce monde d'âge casse, l'un de nos révolutions,
j'ai la rentrée de classe. D'aucuns disent que j'ai raison. Roger, Georges, Bernard, Louis, Romain, Vladi, tous les noms. Dans la journée qui s'enfuit, d'aucuns disent que nous passons. Lisa, Lisina, Sabette, toi qui vole aux quatre vents, nous ferons la fête. Je te jure plus souvent, Elisabeth.
Le grand, l'immense Michel Piccoli à propos de Tchekhov.
Nous, en Europe, on a tendance à penser que les Slaves, les Russes, sont une âme lourde, pesante, triste, nostalgique et mélancolique, alors que ce sont des gens tonitruants, d'une énergie fantastique, toujours au bord de la catastrophe, de l'immigration, de la déportation et de la joie de vivre.
De 1891 à 1894, Anton Tchekhov a écrit un ouvrage scientifique intitulé « L'île de Sakhalin ». L'auteur y décrit les conditions de vie des déportés dans ce bagne du bout de la Sibérie à quelques 12 000 km de Moscou. Tchekhov y a séjourné 3 mois. Il effectue un véritable travail d'ethnographe en réalisant le premier recensement de la population. Dans une approche humanitaire, Tchekhov va à la rencontre de chaque prisonnier, malgré l'interdiction qui lui est faite de rencontrer les déportés politiques et malgré la présence des fonctionnaires chargés de l'espionner. À sa parution, le livre jouera un rôle dans la réforme du système pénitentiaire en Russie. On introduisit Prokhorov. Le médecin, un jeune Allemand, lui enjoignit de se dévêtir et lui examina le cœur afin de déterminer combien de coups il pourrait supporter. Il régla le problème en 1 minute et s'assit pour rédiger son certificat. « Ah, pauvre homme !» dit-il d'un air apitoyé avec un fort accent allemand, en trempant sa plume dans l'encrier. « Tu dois trouver cela lourd, les faire. Demande donc à monsieur l'inspecteur de te les faire ôter. » Prokhorov se taisait. Ses lèvres étaient blanches et tremblaient. « C'est qu'on te fait ça pour rien, » dit le docteur, incapable de se taire. « Vous faites tout ça pour rien. Les gens sont tellement prêts à croire au mal en Russie. Ah, mon pauvre homme !» Le certificat est prêt. On le joint au dossier de l'instruction. Un silence tombe. Le commis écrit. Le docteur et l'inspecteur écrivent. Prokhorov ne sait pas encore exactement pourquoi on l'a fait venir ici. Si c'est uniquement pour sa tentative d'évasion ou pour l'évasion et la vieille affaire ensemble. L'incertitude le ronge. « De quoi as-tu rêvé cette nuit ?» finit par demander l'inspecteur. « J'ai oublié votre haute noblesse. »« Alors écoute, » dit l'inspecteur en regardant le casier judiciaire. « À telle date et telle année, le tribunal d'arrondissement de Khabarovsk t'a condamné à 90 coups de fouet pour l'assassinat du Cosaque. Eh bien aujourd'hui, il va falloir les recevoir. » Et après lui avoir tapoté le front, il lui dit d'un air édifiant. « Et pourquoi tout cela ?» Parce que tu vas être plus intelligent que ta cervelle, tête de bois. Vous vous évadez en pensant que ça améliorera vos affaires. Résultat, c'est le contraire. Nous allons tous à la salle des surveillants, un vieil édifice gris ou plutôt une baraque. Un infirmier militaire se tient à l'entrée et demande d'une voix implorante, comme s'il quémandait une aumône, « Votre haute noblesse, laissez-moi regarder. » Au milieu de la salle des surveillants, il y a un banc en plan incliné et percé d'interstices qui permettent de lier les pieds et les mains. Tolstich, le bourreau, un grand homme charnu, bâti comme un athlète, en manche de chemise et le gilet déboutonné, fait un signe de tête à Prokhorov. Celui-ci s'allonge en silence. En silence et prenant son temps, lui aussi, Tolstich, lui baisse la culotte jusqu'au genou et lui lie lentement les bras et les jambes au banc. L'inspecteur jette de temps à autre un coup d'œil indifférent par la fenêtre. Le docteur fait les 100 pas. Il a les gouttes à la main. « Veux-tu un verre d'eau ? » demande-t-il. « Au nom du ciel, oui, votre haute noblesse. » Le voilà enfin attaché. Le bourreau prend un fouet à 3 lanières et le démêle sans hâte. « Tiens-toi, dit-il à mi-voix en lui envoyant le premier coup sans prendre d'élan, comme pour s'ajuster. Un, dit l'inspecteur d'une voix de sacristain. Au premier moment, Prokhorov se tait et son expression ne change même pas. Puis un frisson le parcourt, et ce qu'il laisse échapper n'est pas un cri, mais un hurlement.
Deux,
crie l'inspecteur. Le bourreau se tient de côté et frappe de telle sorte que les coups tombent en travers du tronc de sa victime. Tous les cinq coups, il change de côté et lui laisse une demi-minute de répit. Les cheveux de Prokhorov sont collés à son crâne, son cou s'est gonflé. Au bout de 5 à 10 coups, son corps, déjà couvert de vieilles balafres, est devenu violacé, presque bleu. À chaque coup, l'épiderme craque. « Votre haute noblesse, » entend-on à travers les sanglots et les hurlements, « votre haute noblesse, pitié, votre haute noblesse !» Au bout de 20 à 30 coups, Prokhorov gémit comme un homme ivre ou délirant. « Je suis un pauvre homme, un homme désespéré. Pourquoi est-ce qu'on me punit ?» Puis le coup se tend d'une manière étrange. On entend des haut-le-cœurs. Prokhorov ne dit plus un mot, ne sait plus que geindre et râler. On dirait que depuis le début du supplice, une éternité entière s'est écoulée. Mais l'inspecteur n'en est qu'à 42, 43... Jusqu'à 90, il y a loin. Je sors. La rue est plongée dans le silence et les bruits déchirants qui montent de la salle des surveillants doivent s'étendre sur tout Douy, à ce qu'il me semble. Un forçat en civil passe dans la rue, jette un rapide coup d'œil à la salle des surveillants et son visage, sa démarche même, exprime l'épouvante. Je rentre. Je ressors. L'inspecteur compte toujours. Nous voici enfin à 90. On délie rapidement Prokhorov et on l'aide à se mettre debout. Son dos est couvert d'ecchymose, le sang suinte. Il claque des dents, sa face est jaune, en sueur, son regard égaré. On lui donne des gouttes, il mord spasmodiquement le verre, on lui passe la tête à l'eau et on l'emmène au cabanon. Ça, c'est pour l'assassinat. On y reviendra encore pour la tentative de fuite, m'explique-t-on, tandis que nous rentrons. Moi, j'aime voir ça, dit l'infirmier militaire d'un ton joyeux, ravi d'avoir pu se repaître de ce répugnant spectacle. J'aime ça. C'est vaurien, c'est crapule. Faudrait tous les pendre.
Monsieur Sacha Pitoev, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de Tchekhov.
Dans ses lettres, Tchekhov parle de la naissance de certains de ses personnages. Il a connu un homme qui, toute sa vie, n'a pas levé le petit doigt pour s'habiller, à tel point qu'un jour, son vieux domestique étant souffrant, eh bien, il est resté au lit toute la journée parce qu'il ne savait pas où était son pantalon. Ouais. Ce personnage est devenu Gaïev, qui joue au billard... en fait et en pensée, et croque sa fortune en bonbons et se laisse câliner par son vieux domestique qui s'occupe de lui comme d'un enfant.
Et maintenant, quelques extraits de théâtre. Ici, un extrait de Oncle Vania, une tirade d'astrophe.
Tu peux chauffer tes poêles avec de la tourbe et construire les hangars en pierre. Bien, j'admets que l'on coupe les bois par nécessité, mais pourquoi les détruire? Les forêts russes gémissent sous la hache, des milliards d'arbres périssent, les gîtes des bêtes, les nids des oiseaux se vident, les rivières s'ensablent et se dessèchent, des paysages ravissants disparaissent pour toujours, et tout cela parce que l'homme est paresseux et qu'il n'a pas assez de sens commun pour se baisser et ramasser le combustible. N'ai-je pas raison, madame? Il faut être un barbare pour follement brûler dans un poêle toute cette beauté, pour détruire ce que nous ne pouvons pas créer. L'homme est doué d'une raison et d'une force créatrice pour multiplier ce qui lui a été donné, mais jusqu'ici, il n'a pas encore créé, il n'a que détruit. Il y a de moins en moins de forêts. Les rivières se dessèchent. Le gibier a disparu. Le climat est plus rude et la terre s'appauvrit et enlaidit de jour en jour. Je te vois qui me regarde avec ironie et tout ce que je dis te semble manquer de sérieux et peut-être est-ce vraiment de la manie, mais quand je passe à côté de la forêt que j'ai sauvée ou quand j'entends le bruissement de ma jeune forêt que j'ai plantée de mes mains, je deviens conscient du fait que le climat aussi est un peu entre mes mains et que si dans 1000 ans l'homme doit être heureux, cela sera un peu de ma faute à moi aussi. Quand je plante un jeune bouleau et que je le vois ensuite se couvrir de feuilles vertes et se balancer dans le vent, mon cœur se remplit de fierté.
À propos d'Oncle Vania, en janvier 1902, Tchekhov reçoit 2 télégrammes. Les camarades médecins membres du 8e congrès des médecins russes présents aujourd'hui au Théâtre d'Art à la représentation d'Oncle Vania envoient à l'auteur très aimé, à leurs chers camarades, l'expression de leur profond respect et tous leurs souhaits de bonne santé. Puis le second, les médecins de district des coins reculés de Russie ayant vu représenter l'œuvre du médecin artiste saluent leurs camarades et garderont toujours en mémoire ce 11 janvier.
À la Russie, à ma belle maison et à la cerisée.
Maintenant un extrait de La Cerisée, écrit en 1904. Toute la Russie est notre jardin. La terre est vaste et belle, et on y trouve beaucoup de lieux admirables. Songez seulement, Anya, votre père, votre grand-père et tous vos aïeux possédaient des serfs, des âmes vivantes. Vous devez les voir, ces êtres humains. Ils vous regardent de chaque cerise du jardin, de chaque tronc d'arbre. Vous devez entendre leur voix. Posséder des âmes vivantes. Mais c'est cela qui vous a façonné tous, qui avez vécu et qui vivez maintenant, si bien que votre mère et vous-même et votre oncle, vous ne remarquez même pas que vous êtes couverts de dettes vis-à-vis de ces âmes, que vous vous faites entretenir par ceux à qui vous ne permettez pas d'aller plus loin que votre antichambre. Nous sommes en retard d'au moins 200 ans. Nous ne possédons encore rien, pas même un point de vue sur le passé. Tout ce que nous savons faire, c'est discuter interminablement. C'est nous plaindre d'un vague à l'âme ou boire de la vodka. C'est pourtant lumineux que pour commencer à vivre au présent, il faille d'abord expier notre passé, en finir. Et on ne peut l'expier que par la souffrance, que par le labeur inouï, constant. Il faut que ceci soit clair pour vous, Anya. Faites-moi confiance, Anya, faites-moi confiance. Je n'ai pas encore 30 ans, je suis encore jeune, je suis encore étudiant, mais j'ai déjà tant enduré. Dès qu'arrive l'hiver, je n'ai plus rien à manger, je suis malade, inquiet, pauvre comme un mendiant, et le hasard de mon destin m'en a fait voir des choses. Et malgré tout, à chaque instant, jour et nuit, j'ai toujours été plein de pressentiments inexprimables. Je pressens le bonheur, Anya. Je le vois déjà.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
citation de Tchekhov sur ses propres pièces. À propos de ces pièces, il s'étonnait toujours qu'on pleure. Je ne les ai pas écrites pour cela. C'est Alexeïev Stanislavski qui les a rendues si larmoyantes. Je voulais seulement dire honnêtement aux gens, examinez-vous. Regardez comme votre vie est mauvaise et ennuyeuse. Et dans une lettre à sa sœur du 12 octobre 1887, Tchekhov écrit « Je termine chaque acte comme mes récits. Je mène l'action calmement et doucement. Et à la fin, je donne un coup de poing dans la gueule du spectateur. »
Les derniers temps, mon père avait beaucoup changé. La physique ne l'intéressait plus. Il en avait peut-être assez de l'aspect aride de sa discipline. Il se passionnait pour des recherches bizarres, qui touchaient, je crois, à l'histoire. Il étudiait tout ce qu'il trouvait sur la méthode égyptienne pour l'embaumement et la conservation des momies.
Les trois sœurs de Margaret von Trotta avec Fanny Ardant.
C'est curieux. Je ne me souviens pas de votre père comme d'un homme très altéré pour l'ésotérisme.
Peut-être était-ce sa façon d'exorciser la mort.
Mais la mort n'existe pas en physique. Le temps et l'espace, oui, mais la mort, non. Ce sont vos poètes qui l'ont inventé.
Nous allons partir, Olga Sergeyevna. Je dois m'en aller. Je vous souhaite de tout mon cœur. Où est Maria Sergeyevna?
Elle est quelque part dans le jardin. Je vais aller la chercher.
Je vous serai bien obligé. Je suis pressé.
Je vais la chercher moi aussi. Mashenka, où?
Tout a une fin. Voilà que nous nous séparons, nous aussi. La ville a donné à notre honneur une sorte de déjeuner. On a bu du champagne, le maire a fait un discours, je mangeais, j'écoutais. Et mon cœur était ici, chez vous. Je m'étais tant habitué à vous.
Nous reverrons-nous un jour ou l'autre?
Probablement jamais. Ma femme et les deux petites resteront ici encore environ 2 mois. Je vous en prie, si jamais il arrivait quelque chose ou bien s'il y avait besoin de...
Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez être tranquille. Demain déjà, il n'y aura plus un seul militaire en ville. Tout ne sera plus que souvenirs et une vie toute différente commencera pour nous. Tout se passe à rebours de ce que nous voulons. Je suis devenue directrice quand je ne voulais pas l'être. Je n'irai donc pas à Moscou.
Ah, merci de tout. Excusez-moi si je n'ai pas toujours été, j'ai beaucoup, beaucoup trop parlé. Excusez-moi pour cela aussi, ne pensez pas de mal de moi.
Macha tarde.
Que puis-je vous dire encore avant de partir? Sur quel thème philosopher une dernière fois? La vie est lourde à porter. Beaucoup d'entre nous considèrent qu'elle est sourde et désespérée. Et cependant, il faut bien avouer qu'elle devient tous les jours plus lumineuse, plus facile. Et tout fait croire qu'il n'est pas loin le temps où elle s'éclairera entièrement. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Jadis, l'humanité était occupée par les campagnes, les invasions, les victoires. Maintenant, tout cela a vécu, laissant derrière soi un énorme vide qu'on ne sait évidemment comment remplir. L'humanité cherche passionnément et trouvera, c'est certain. Ah, qu'elle se dépêche. Si on ajoutait à la capacité de travail la culture, et à la culture la capacité de travail, alors... Ah, mais il me faut absolument partir.
C'était un extrait de Les Trois Sœurs, Verchinine et Olga, à l'acte 4. Et maintenant, un autre extrait de La Mouette, Treplev, où il parle de sa vision du théâtre. Je pense que le théâtre contemporain n'est que routine et préjugé. Lorsque se lève le rideau et que dans une pièce crépusculaire à 3 murs, ces génies, ces prêtres de l'art sacré vous montrent comment les gens mangent, boivent, aiment, marchent, portent leur complet veston. Lorsque dans la vulgarité des images et des phrases, ils essayent de prêcher une morale. Une petite morale facile à comprendre, utile dans un ménage. lorsqu'on me sert les 1000 variations de toujours la même chose, la même chose, la même chose. Alors je me sauve. Je me sauve comme Maupassant se sauvait devant la tour Eiffel qui lui écrasait le cerveau de sa vulgarité. Il faut des formes nouvelles. Il les faut. Et si elles n'existent pas, mieux vaut que rien n'existe. Il faut représenter la vie, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on la voit en rêve. Et puis plus tard dans la pièce, toujours très plef, s'apprêtant à écrire. J'ai tant parlé de formes nouvelles et voilà que je me sens moi-même glissé vers le conventionnel. Sur le mur, l'affiche proclamait un visage pâle encadré de cheveux noirs. Oh, proclamé, encadré, c'est plat. Je vais commencer par le bruit de la pluie qui réveille mon héros et couper tout le reste. Ouais. La description de la nuit de lune est longue et laborieuse. Trigorine a trouvé sa manière, lui. Ça lui est facile. Un goulot de bouteille brisé qui brille devant une vanne, l'ombre noire de la roue du moulin. Et la nuit de lune est prête. Et moi, j'ai une lumière qui tremble et les étoiles qui clignotent et les sons lointains d'un piano qui se meurent dans l'air doux et parfumé. C'est une torture. Ouais, je suis de plus en plus convaincu qu'il ne s'agit pas de formes anciennes ou nouvelles, mais simplement de ce qui vous coule librement du cœur, sans penser à une forme ou à une autre.
Dans La Mouette, il y a... cette chose assez fascinante, c'est que tous les personnages, à un moment, expriment un rapport à l'art.
Stéphane Braunschweig.
Comment l'art les aide à vivre ou ne les aide pas à vivre. Je trouve que monter cette pièce, quand on travaille dans un théâtre comme le Théâtre National de Strasbourg, ça a beaucoup de sens. Et évidemment pour moi et puis pour les spectateurs, parce que c'est aussi, dans La Mouette, c'est pas seulement Nina qui veut faire du théâtre ou Treplev qui écrit des pièces, c'est tous les autres autour qui vivent par procuration des tas de choses dans l'art. Donc c'est au fond une pièce fondatrice pour ça.
À propos de La Mouette, Tchekhov écrit dans une lettre le 26 décembre 1998 « On m'écrit de Moscou et on me claironne que La Mouette a eu du succès. Mais comme je n'ai jamais eu de chance avec le théâtre, par une sorte de fatalité, l'une des interprètes est tombée malade après la première représentation et ma Mouette n'est plus jouée. » J'ai si peu de chance avec le théâtre que si j'épousais une actrice, nous mettrions sûrement au monde un orang-outan ou un porc-épic. Ceci est la transition idéale pour vous lire quelques extraits de lettres que Tchekhov a écrit à la femme de sa vie, Olga Knipper, qui était actrice, justement.
4 octobre 1899, Olga Knipper. Chère actrice, vous avez tout énormément exagéré dans votre sombre lettre, c'est évident, car les journaux ont fort bien accueilli la première représentation. Quoi qu'il en soit, une ou deux représentations ratées sont tout à fait insuffisantes pour se laisser abattre et ne pas dormir de la nuit. L'art, et particulièrement le théâtre, est un domaine où l'on ne peut avancer sans trébucher. Vous avez devant vous beaucoup de journées ratées et des saisons entières d'échecs. Il y aura aussi de grands malentendus et d'immenses déceptions. Il faut être prêt à affronter tout cela. Il faut s'y attendre et malgré tout, obstinément, fanatiquement, maintenir son cap. Comment allez-vous? Écrivez-moi davantage. Vous voyez, j'écris presque chaque jour. Un auteur qui écrit si souvent à une actrice, ma fierté va commencer à souffrir. Il faut tenir sévèrement les actrices et non leur écrire. J'oublie toujours que je suis inspecteur des actrices. Portez-vous bien, mon petit ange, votre Anton Tchekhov.
2 janvier 1900, Olga Knipper. J'écris à Meyerhold pour essayer de le convaincre de ne pas trop forcer le trait en interprétant un homme nerveux. En effet, la majorité des gens sont nerveux, la majorité des gens souffrent. Une minorité ressent une douleur aiguë. Mais où ? Dans les rues, les maisons, où voyez-vous des gens agités qui sautent de tous les côtés et se tiennent la tête? Il faut exprimer les souffrances comme elles s'expriment dans la vie, c'est-à-dire pas avec ses jambes et ses bras, mais par le ton, le regard, pas en gesticulation, mais avec grâce. Les subtils mouvements de l'âme propres aux gens cultivés doivent être exprimés physiquement aussi avec subtilité. Vous me direz que ce sont les conventions de la scène. Aucune convention ne justifie le mensonge.
Le 20 janvier 1901, Olga Knipper. Chère petite actrice, exploratrice de mon âme, pourquoi m'as-tu envoyé ce télégramme? Tu aurais mieux fait de me parler de toi plutôt que de ces choses sans importance. Comment se passent les trois sœurs? Si j'en crois vos lettres, vous faites tous n'importe quoi. Du bruit dans l'acte 3? Pourquoi du bruit? Il y a du bruit au loin, derrière la scène, un bruit sourd, vague. Mais sur la scène, tout le monde est épuisé, dort presque. Si vous abîmez l'acte 3, la pièce est fichue et on me sifflera sur mes vieux jours. Alex y a fait très élogieux envers toi dans ses lettres, et Wisniewski aussi. Quant à moi, bien que je ne vois rien, je le suis aussi. Verchinine dit « tam 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 » sous forme de question. Et c'est pour toi une plaisanterie si originale que tu réponds « tam tam » en pouffant. Tu dis « tam tam » et tu te mets à rire, mais pas fort, juste un peu, comme ça. Il ne faut pas avoir la même expression que dans Oncle Vania à ce moment-là. Il faut être plus jeune et plus vive. Rappelle-toi que tu es moqueuse, en colère. Mais je compte sur toi, mon cœur. Tu es une bonne actrice. J'avais déjà dit qu'il ne fallait pas faire passer le cadavre de Tussenbach sur la scène. Mais Alexeïev maintenait que l'on ne pouvait pas faire autrement. Je lui ai écrit de ne pas faire cela. Je ne sais pas s'il a reçu ma lettre. Si la pièce ne marche pas, j'irai à Monte-Carlo et j'y perdrai au jeu ma dernière chemise.
Le 21 janvier 1901, à Olga Knipper. Ma petite chérie, la confession de Masha au troisième acte n'est pas du tout une confession, mais juste une conversation à cœur ouvert. Mène cette scène nerveusement mais sans désespoir, ne crie pas, souris parfois et fais en sorte surtout que l'on ressente la fatigue de la nuit et que l'on sente que tu es plus intelligente que tes sœurs, que du moins tu t'estimes plus intelligente. Hier je t'ai envoyé un télégramme, l'as-tu reçu? J'écris bien sûr mais sans aucune conviction. Les trois sœurs m'ont semble-t-il épuisé, ou alors j'en ai juste assez d'écrire, je suis trop vieux, je ne sais pas. Il faudrait que je n'écrive plus pendant 5 ans, que je passe 5 ans à voyager, et puis que je revienne et que je m'y remette. Ainsi, les trois sœurs n'iront pas à Moscou cette saison. Vous commencez par Saint-Pétersbourg. À ce propos, dites-toi bien qu'à Saint-Pétersbourg, vous n'aurez aucun succès. C'est bien sûr une chance, puisqu'après Saint-Pétersbourg, vous ne voyagerez plus et ne bougerez plus de Moscou, car partir en tournée, ce n'est pas du tout pour vous. À Saint-Pétersbourg, les recettes seront bonnes, mais du succès, vous n'en aurez pas une goutte. Excuse-moi, s'il te plaît.
Le 20 janvier 1902, à Olga Knipper. Comme tu es bête, mon cœur. Quelle petite idiote. Pourquoi te morfonds-tu ainsi? Tu écris que tout est exagéré, que tu es une parfaite nullité, que j'en ai assez de tes lettres, que tu sens avec horreur ta vie se rétrécir, etc. Tu es bête. Je ne t'ai pas parlé de ma prochaine pièce, non pas parce que je n'ai pas confiance en toi, comme tu l'écris, mais parce que je ne suis pas encore sûr de ma pièce. Elle a juste commencé à poindre dans ma tête comme l'aube, et je ne comprends pas encore moi-même à quoi elle ressemble, ce qu'elle deviendra, et elle change chaque jour. Si nous nous étions vus, je t'en aurais parlé, mais je ne peux rien écrire, parce qu'il n'y a rien à écrire. Je ne pourrais que bredouiller des choses inintéressantes, et tu te lasserais vite. Tu me menaces dans ta lettre de ne plus jamais rien me demander, de ne plus jamais te mêler de rien. Mais pourquoi, mon cœur? Non, tu es quelqu'un de bon. Tu remplaceras ta colère par de la gentillesse quand tu verras à nouveau combien je t'aime, combien tu m'es proche, que je ne peux pas vivre sans toi, ma petite idiote. Arrête de te désespérer, arrête. Ris. Moi, j'ai le droit de désespérer, car je vis dans le désert, je n'ai rien à faire, je ne vois personne, je suis malade presque chaque semaine. Mais toi, ta vie, malgré tout, est remplie.
Nous avons gardé pour clore cette émission un document qui, mieux que tout, pourra toucher ceux qui ont connu les Pitoëf. C'est la scène finale de La Mouette de Tchekhov que Georges et Ludmila jouèrent pour la première fois en 1921 à plein palais. Cette scène a été enregistrée quelques semaines après la mort de Georges, il y a 20 ans, et par Ludmila.
Qu'est-ce que je disais? Ah oui, oh oui, je parlais du théâtre. Oh, maintenant, ce n'est pas la même chose. Maintenant, je suis une véritable artiste. Je joue avec joie, avec extase. Je me sens enivrée en scène. Je me sens belle. Oh, maintenant, je sais, Kostia. Je sais que dans notre métier, que nous écrivions ou que nous jouions au théâtre, ce qui importe, ce n'est pas la gloire, ni l'éclat, ni tout ce dont j'ai rêvé. Non, ce qui importe, c'est de savoir souffrir. Il faut savoir porter sa croix et croire. Je crois et j'ai moins mal. Et quand je pense à ma vocation, je ne crains pas la vie.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission en partenariat avec le magazine littéraire, réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Michel Mestre, a été préparée par Laura El Maki, Odette Pires et Estelle Gap.